Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une belle journée, que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous vous apprêtez à cheminer avec nous, passer ces quelques heures, puisque nous sommes pratiquement 2 heures ensemble, chers amis. Vous êtes bien sur Europe 1 et c'est la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Pour nous joindre, vous composez le 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Vous nous écrivez au 7-39-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Vous écrivez vos messages sur la page Facebook Yann Moix, Olivier Delacroix, la libre antenne. Et vous écrivez vos mails à libreantenne@europe1.fr, à Julia et à Florian, qui ce soir sont accompagnés de notre réalisateur Laurent Pellet, toujours fidèle au poste. La Libre Antenne est au grand complet ce soir pour vous accueillir. N'oubliez pas que c'est votre émission et que nous sommes là pour vous écouter. Votre Libre Antenne du mercredi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Alexandra au 39-21. Bonsoir Alexandra.
Rebonsoir Olivier.
Rebonsoir Alexandra. Alors nous nous sommes quittés hier soir. Oui. Et je vous ai proposé de finir cette conversation parce que le sujet que vous abordiez est un sujet quand même important puisqu'il oui. concerne le droit des grands-parents à exercer leur droit de visite avec leurs petits-enfants. Bien évidemment, je l'ai dit, cette loi, elle est bien lorsque tout va bien, mais elle peut être très nocive quand elle se passe mal, et avec vous, ça se passe mal. C'est avec votre belle-mère que ça se passe mal, hein, la grand-mère des enfants.
Donc. Tout à fait ça, tout à fait ça.
Alors, vous me disiez hier soir que vous aviez été négligé en tant que parent.
Oui.
Et c'est les questions que je voulais vous poser. Comment tout ça débute, en fait ? Vous êtes... donc la grand-mère porte plainte, je suppose, ou se plaint auprès du juge aux affaires familiales pour faire valoir son droit, à entretenir des liens avec ses petits-enfants. Déjà, ça vient de quoi, ça ? Il y a une embrouille entre vous, vous ne la voyez pas beaucoup, elle ne voit pas beaucoup ses petits-enfants.
C'est ça, c'est tout à fait ça, c'est qu'on ne la voit pas beaucoup et elle ne voit pas beaucoup ses petits-enfants.
Pour quelle raison en fait ? Vous ne vous entendez pas avec elle, les uns et les autres ?
C'est une question d'entente, sans doute, mais comment dirais-je ? Depuis que j'ai apporté à mon mari un autre fonctionnement, c'est-à-dire le bonheur, la lumière, j'ai tout de suite été pointée du doigt. J'étais pointée du doigt par rapport à mes fragilités. Moi, j'ai connu mon mari, j'étais en boulimie anorexie.
Oui.
Pendant 8 années. Hein. J'ai servi l'armée pendant 1 an et demi.
D'accord.
En tant que fusilier commando. J'étais engagée. Voilà.
Donc, fusilier très, commando
très, très, très mal... Fusilier commando à la BA 128 de Metz.
D'accord.
Donc, à partir de là, j'ai servi le drapeau français pendant 1 an et demi. Et pendant ces 1 an et demi, il y a des stages, il y a des formations. J'ai eu mes diplômes. Sportivement, j'étais au top. Intellectuellement aussi, hein, je n'étais pas en dessous de la moyenne. Mais petit à petit, il y a eu des choses qui se sont passées à la base qui ont fait que j'ai régressé. Le niveau a régressé et puis il fallait tout de suite me sortir de là parce que ça n'allait pas, quoi. Mmh. Une femme dans un milieu d'hommes, ce n'est pas évident. Il faut avoir le mental, il faut avoir les épaules d'acier. J'avais les épaules, mais je n'avais pas le mental. Voilà, je le dis aujourd'hui. Et ces fragilités-là, ça lui a permis de me rendre responsable de tous les problèmes et de tous ces malheurs. Aujourd'hui, je suis responsable de tous ces problèmes.
Quel type de malheur, quel type de problème Alexandra.
Mais toutes les histoires qui se passent dans sa famille, c'est de ma faute. Voilà.
Parce qu'il y a des histoires dans cette famille.
Oui, il y a beaucoup d'histoires. Oui, oui.
Vous m'avez dit que votre mari, donc le papa des enfants, n'entretenait pas des relations terribles avec sa maman.
Ils sont dans la non-communication. Ils ne sont pas dans la communication, ils sont dans la non-communication qui finit toujours par un clash.
D'accord. Je crois que Hervé est là, votre mari. Hein,
oui.
Et j'aimerais bien qu'il m'explique ça, en fait. D'où vient cette non-communication, selon lui ? Hervé, vous êtes là ?
Oui, bonsoir, Olivier.
Bonsoir, Hervé. Alors, cette non-communication avec votre mère, elle vient d'où, à votre avis ? Elle puise son... où son origine ?
C'est une bonne question. C'est une excellente question parce que effectivement, c'est pas évident. D'abord, tiens à vous signaler que je suis content d'être là ce soir, mais en même temps, j'ai véritablement peur. Hein, j'ai très très peur. Je suis très très angoissé. Ben, j'ai peur de parler. J'ai peur de dire justement de répondre à votre question parce que j'ai pas vraiment la réponse. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai jamais eu des rapports très faciles avec ma maman.
Oui. J'ai cru comprendre que vous aviez été élevé par votre grand-mère, Hervé.
Alors j'y étais donc, oui, j'étais jusqu'à l'âge de 6 ans. Ma mère travaillait donc, et puis elle m'a laissé donc chez ma grand-mère avec mon grand-père parce que mes parents ont divorcé. J'avais 2 ans, donc mes plus beaux souvenirs. Et j'ai envie de dire ma fondation, ce qui me fait tenir le debout aujourd'hui quelque part.
C'est votre famille.
C'est quand je regarde la photo de ma grand-mère et je lui dis, voilà, quand je regarde la photo de ma grand-mère, je lui dis merci pour les années que j'ai vécues d'enfance avec elle. Et un jour, j'avais 6 ans, ma mère m'a récupéré de chez elle en disant que parce qu'un médecin lui a dit qu'il fallait que j'aille chez ma mère. Donc je me rappelle encore de ce jour aujourd'hui, du jour où je suis parti de chez ma grand-mère et que j'étais chez ma mère. Quoi. J'ai vécu chez ma mère à l'âge de 6 ans. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'est ma mère. J'ai eu des moments, j'attendais des câlins, j'attendais de la tendresse, j'attendais des choses comme ça. Je n'ai pas le souvenir d'en avoir eu beaucoup, mais malgré tout, c'était ma mère, c'est ma mère, je l'aimais. Je l'aime toujours, je précise. Et les années ont passé, j'étais bon à l'école jusqu'en CM2, et à partir de la 6e, j'ai chuté terriblement, j'étais en échec scolaire, donc la culpabilité, etc., etc., un cercle vicieux, les années qui passent, des reproches, de l'immobilisme de ma part, de la peur, de l'angoisse, les années passent, et voilà, et à un moment donné, beaucoup de clash, beaucoup d'engueulades. Je pars sur Paris, justement, je travaille dans un grand parc d'attractions en 92. Je précise que j'ai 53 ans.
Oui.
Voilà, je fais ma vie, je reviens chez ma mère, etc. Mais nos rapports ont toujours été très, 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 très conflictuels. Voilà, nos rapports ont toujours été conflictuels. Et du coup, je ne sais plus quoi dire, je suis un peu perdu.
Vos rapports ont été conflictuels. Bon, là, il y a une situation qui entraîne visiblement votre volonté de faire une grève de la faim.
Oui, alors là, voilà, donc oui, parce que pourtant je t'ai promis de ne pas parler de moi. L'important, c'est les enfants, c'est la famille aujourd'hui. Et ça va beaucoup trop loin. Elle a porté plainte contre Alexandra,
oui.
pour non-présentation d'enfants, pour un événement que j'ai mis en place moi. Enfin, comment expliquer, ça fait des années que ça dure. C'est très dur, excusez-moi, je suis désolé, j'ai du mal à m'exprimer.
Non, mais vous ne vous inquiétez pas.
J'ai vraiment du mal à l'exprimer. Je n'y arrive plus. Je suis perdu un peu là. Je suis un peu perdu. Je ne trouve plus mes mots.
Bon, mais faire une grève de la faim, il faut faire attention. Hein.
Parce qu'il
y a les enfants aussi. Hein. Il faut continuer à bien.
Non, mais justement, oui, je ne vais pas la faire, cette grève de la faim. J'en ai parlé sur un coup de tête. Et avec, en toute intelligence, effectivement, je ne vais pas mettre ça en place parce qu'effectivement, il y a les enfants qui sont là. les enfants qui ont besoin de nous. C'est très très dur, c'est très très dur, mon sang, c'est très très dur. Je ne vais pas la faire, cette grève de la faim. Je voudrais juste que ma mère arrête de faire ce qu'elle fait.
Oui.
Je voudrais juste qu'elle comprenne qu'on souffre de ça, qu'on souffre d'être mis à l'écart, quelque part, des ponts qu'ils ont coupés. Il y a une remarque de son compagnon qui a dit il y a quelque temps, en riyant d'ailleurs, ça fait bien longtemps qu'on a coupé les ponts avec vous, mais pas avec vos enfants. Voilà, par exemple, il y a des phrases comme ça qui choquent, qui viennent. Il y a des phrases qu'elle envoie à ma femme sur un terrain de foot avec mon grand garçon qui a 11 ans à côté, en disant à ma femme, tu n'as rien à foutre ici, par exemple. Et le gamin, il est choqué. Et il défend sa maman en disant, non, ma maman, elle doit être là. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça résume la situation. Ça la résume bien, la situation. Il y a une image qui n'est pas belle. Il y a une image qui n'est vraiment pas belle. Et on souffre de tout ça. On en souffre. Elle dit de ma femme qu'elle me manipule et qu'elle manipule les enfants. Ce qui est faux. Entièrement faux. Malheureusement, c'est une horreur parce que nous avons déjà essayé plusieurs fois dans le passé de recréer des liens, d'entamer des discussions, des dialogues. Et il y a pour la famille, pour les enfants, pour nous, et il y a rien qui s'est passé. Encore aujourd'hui, je pense que c'était encore une bouteille à la mer, cette demande de grève de la faim. Encore une bouteille que j'ai envoyée à ma mère, j'ai envie de dire,
oui.
Pour attendre une certaine réponse. Malheureusement, je n'ai pas eu la réponse que mon cœur d'enfant attendait. J'aurais peut-être voulu qu'elle m'évite de me noyer, quoi. J'aurais bien aimé qu'elle me dise, ne fais pas ça, on va trouver un arrangement, on va arrêter la justice, on va tous se faire confiance. On va repartir sur des bonnes bases.
Vous parlez ensemble un peu? Vous échangez un peu ensemble, non?
Avec ma mère?
Oui.
Avec ma mère?
Oui.
Ben, j'ai l'impression, pour vous dire la vérité, que je n'ai jamais eu de dialogue avec elle. Et elle m'a toujours dit que je ne savais pas écouter, que je voulais toujours avoir raison.
Oui.
Voilà, donc j'ai l'impression que je n'ai jamais eu de dialogue. Et que peut-être que je ne sais pas dialoguer, je n'en sais rien. Peut-être qu'elle a raison, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'actuellement, j'ai envie de dire, jusqu'à aujourd'hui, ça va au niveau des enfants. On est très heureux. Notre plus grand gamin, il nous a ramené un super certificat scolaire. Les trois autres, eh bien, on est contents d'eux aussi. Ils sont en bonne santé, on touche du bois. Ils ont un papa, ils ont une maman qui s'aime depuis 12 ans.
Mmh.
On ne s'est jamais quitté une journée. Vous voyez, on est fusionnel, on est soudés, on fait des câlins à nos petits. On les aime, on s'aime. Je sais qu'ils nous aiment, ils le disent, on se le dit, on n'arrête pas de se le dire. On ne fait que ça, on ne fait que ça du matin jusqu'au soir. Parfois, on gueule un peu, c'est normal pour les devoirs, les choses comme ça. Et je n'attendais un peu d'amour de ma mère. Et même en disant que j'allais faire cette grève de la faim que j'ai mise sur un réseau social, j'attendais des mots, des paroles d'elle que je n'ai pas reçues.
Rien n'est venu, en fait.
Rien ne vient. Rien ne vient. Rien ne vient. Il y a une froideur. Il y a quelque chose chez elle qui est cassé, je pense. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne l'ai jamais su. Je sais que je suis né quand mon grand-père... Son papa est décédé, je suis né un mois avant sa mort. On était dans le même hôpital, mais pas au même étage.
Oui.
Parfois, j'ai l'impression que j'ai récupéré l'impression, j'ai récupéré le bébé, et le bébé, c'était moi. J'ai l'impression que, parce que je sais qu'il leur en voulait à lui, parce qu'il était militaire de carrière, c'était un très gentil garçon, mais malheureusement, il avait des vices, l'alcool et le jeu.
Mmh.
Donc, il a détruit cette famille. hein, qui était composé de ma grand-mère, de mon grand-père, que je n'ai pas connu donc, et de ma mère et de son frère. Par la suite, hein, j'ai été élevé par ma grand-mère et son compagnon, que j'ai considéré comme mon vrai grand-père, hein, je précise bien. Et voilà, donc, voilà son histoire. Et apparemment, il y avait aussi des histoires de beau-père. Je crois qu'il y a un passé qui est assez lourd. Je sais qu'elle parlait de son clan, qui incluait donc son frère et sa mère, hein, donc ma grand-mère et mon oncle. Et c'est vrai que c'était des fortes personnalités, et j'ai traversé les années avec ça. Mais j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose, il y avait un poids. Et ma mère ne m'a jamais fait de câlin, parce qu'elle disait qu'elle n'aimait pas ça.
Jamais.
Mais j'ai l'impression, et parfois elle nous l'a même dit il y a quelques temps, même Alex et moi, qu'on était encore des enfants. Oui, j'avoue, hein, j'ai l'impression qu'en moi, il y a, comme je l'ai dit, j'ai 53 ans, j'ai l'impression qu'il y a un petit gamin qui est encore là, quoi, et qui attend quelque chose de sa maman qu'il n'a jamais reçu, quoi. Et quand on parle de cette grève de la faim que je ne vais pas faire, je précise, parce que je pense que c'est plus dangereux qu'autre chose, malgré le fait que ça a attiré quand même l'attention. Je pense que j'ai attiré l'attention, effectivement. J'ai eu des bons commentaires. Il y a des gens qui ont bien analysé la situation dans notre sens, qui ont compris. Mais effectivement, je n'attendais et je n'attends toujours que quelques mots d'amour, comme dirait la chanson, qui viendraient d'elle.
Ouais,
et malheureusement, à cause de tout ça, le mal continue. Et nous sommes dans une situation, pour revenir un peu dans le concret, qui est dramatique. Parce que maintenant, je ne vais plus parler de moi, je vais parler d'Alexandra. C'est la maman des enfants. Elle se débrouille super bien. Je pense qu'elle est dynamique. Il n'y en a pas un qui est mieux considéré que l'autre. Elle y a toujours tenu, moi aussi. C'est une maman qui rit, qui aime la musique, qui aime chanter, qui aime les gens, qui aime faire la fête, qui est sociable, qui est attachante, qui est charmante, qui est pleine d'énergie. Mais là, on prend plein la figure. Elle ne mérite pas ça. Il y a son papa qui, je le dis, hein, je ne veux pas être dans le pathos, mais il faut quand même le dire, parce que le temps presse, son papa qui est malade.
Oui.
Alors, on ne sait pas ce qui va se passer.
Qui est le grand-père aussi des enfants.
Oui, ouais, qui est le papy et qui est toujours là. Ouais. Toujours là.
On a peu parlé voilà. Des enfants. Quel âge ont-ils, Hervé, les enfants?
Alors, le plus grand, il a 11 ans. On peut dire, il s'appelle Roméo.
Oui.
Le deuxième est 10 ans. Il s'appelle Richard. Le troisième, 7 ans, c'est Robin. Et pour changer, le quatrième, on ne l'a pas appelé avec un R, hein, on a changé. Hein. On l'a appelé Anthony, A-N-T-O-N-I, tout simplement, et ses quatre adorables petits bouts de chou. Voilà. Et la mamie, donc la maman d'Alexandra, est tout le temps là. Le papy aussi, ils font des cadeaux. Moi, je crise parce qu'il y a plein de jouets dans la maison. Ça déborde de jouets. Mais voilà, ils sont toujours là. On n'a pas besoin de leur courir derrière. Ils sont là. Et les deux autres, ils sont... Les deux autres, on ne les voit pas beaucoup. Hein. Mm-hmm. Voilà.
Mais en tout cas, alors, on va marquer une petite pause, Hervé.
Oui.
Et puis, on va continuer à parler des relations des enfants avec leurs grands-parents, justement. À tout de suite.
D'accord.
La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot « nuit », suivi de votre message au 7 39 21.
75 centimes plus coût du SMS.
Il est 23h28, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne. Vous pouvez, je vous le rappelle, nous appeler quand vous en avez envie. Hervé, vos enfants, ils entretiennent quel type de rapport avec votre mère, justement, et son compagnon?
Alors, c'est compliqué, justement, c'est ça, le gâchis, il est là. Ils entretenaient des bons rapports, apparemment, dans les premières années. Mmh. Et après, il y a eu le Covid aussi, elle a mis ce truc au tribunal. Alors, il faut savoir, la parenthèse, c'est qu'on n'a jamais fermé la porte. C'est-à-dire qu'on n'a jamais interdit à ma mère de venir voir les enfants. Mais apparemment, on a un planning surchargé, donc le lundi soir, 5 minutes, hein, pas plus. Et puis elle en a récupéré un le mercredi ou le samedi, hein, c'était comme ça. Et les rapports se passaient apparemment bien chez elle, à l'époque. Et depuis qu'il y a eu les jugements qui ont été faits, au fur et à mesure, le climat pesant s'est installé et chez elle. Et aujourd'hui, il y a les grands, ils ont plus envie forcément d'aller là-bas parce qu'ils veulent que cette histoire s'arrête, quoi.
Oui.
Voilà. Parce que, comme je vous dis, il y a eu un événement sur un terrain de foot où elle est venue, puis elle a dit à la maman, tu n'as rien à foutre ici, le grand, il a pas supporté. On peut pas, je pense qu'on ne peut pas à un moment donné cloisonner, comment dire, on peut pas mettre de côté la maman, quoi. C'est quand même elle qui les a mis au monde, les petits.
Bien sûr.
Et c'est un cadeau, quelque part, qu'elle nous a fait. Moi, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai 53 ans. Jamais j'aurais pensé que je me retrouverais... Quand j'avais 40 ans, j'étais persuadé que c'était fini pour moi, que j'allais finir, célibataire sans enfant. Hein. Et même ma mère disait qu'elle n'a pas de petits-enfants. Et tout d'un coup, on lui en donne 4, quoi. Donc je dis merci la vie, quoi. Parce que, voilà, merci la vie, je veux dire... comment dire, ils sont en bonne santé. On a eu de la chance, on n'a pas eu de soucis. Quand t'as un enfant qui vient dans ta vie, je veux dire, tu peux pas faire de calcul, quoi. Tu lui donnes tout ce que tu as et je sais pas comment expliquer. On en a 4. Et ben même si on en avait eu 2 ou si on en avait eu 1 ou si on en avait eu 8, c'est pareil. Ça se multiplie, quoi. De l'amour, c'est un cadeau, c'est un merci. Elle nous a imposé un planning. Des plannings, des rendez-vous, des choses comme ça. Tout est calculé pour ne pas déranger ce qui se passe chez elle, quoi, tout simplement. Vous comprenez ? Quand les petits étaient là-bas, j'étais content. Hein, mais par exemple, elle n'en voyait qu'un seul dans le mois, puisqu'on en a 4. Donc, c'est très, très, très planifié. Et nous, déjà, on ne peut plus subir ça parce qu'on en a 4, je répète, on a des sorties, il y a les autres grands-parents qui sont là. Et elle veut encore nous assigner pour avoir un hébergement supplémentaire, une semaine là, une semaine en début juillet pour une semaine après pour un deuxième, une semaine pour un troisième. On s'en sort plus de ça.
Oui.
On s'en sort plus du tout, hein.
Voilà, c'est terrible. C'est terrible.
Bah, je pense, oui, c'est terrible parce que on est arrivé dans une situation où on est bloqué parce que il y a deux gros. On a accepté tout ça. Moi, j'ai accepté cette espèce de schéma là qui me fait souffrir. Hein. Mais aujourd'hui, il y a quand même deux événements importants. C'est que il y a le papa d'Alex qui est malade. Donc voilà, on ne sait pas ce que l'année nous réserve. Et elle a quand même envie de s'occuper de son père, de donner son énergie pour son papa. Et il y a un autre événement, c'est que ma mère n'arrête pas de dire qu'Alex, elle fait un rejet sur Alexandra, mais un immense rejet, quoi.
Elle a toujours été jalouse, de toute façon, d'Alexandra, votre mère, non ?
Ben, j'aime pas ce mot. Je pensais pas, j'aime pas l'employer, mais... j'ai l'impression que oui, j'ai encore des souvenirs. Vous savez, j'avais 16 ans, je ramenais une petite copine à la maison, j'avais jamais compris pourquoi ma mère la regardait méchamment. J'ai pas compris. Il y a des images qui reviennent, donc il y a un truc qui va pas là, à ce niveau-là.
Mm-hmm.
C'est clair. Et surtout que ce qui se passe et qui est grave, et je culpabilise aussi dessus, c'est que elle dit que tous les problèmes que nous avons, c'est Alexandra qui les a faits. Mais elle oublie que quand elle n'était pas là, c'était moi la proie, j'ai envie de dire. Et qu'aujourd'hui, le discours, c'est qu'Alexandra nous manipule, voilà, et que je suis fou. Quand je l'ai au téléphone, les rares fois où je l'ai au téléphone, elle dit que je suis fou. Donc, apparemment, j'ai entendu des bruits, dans ses relations, elle dit que je suis, comment dire, sous l'emprise d'Alexandra. Voilà, je suis sous l'emprise d'Alexandra. Mmh. Voilà. Et dans les fameux commentaires sur le réseau social, là, elle m'a bien fait comprendre que j'avais besoin de repos seul, bien, entre parenthèses, seul pour y voir plus clair. Je suis ravi parce que j'ai eu le réconfort que des gens intelligents lui ont répondu et m'ont rassuré sur pas mal de choses qu'elle a un problème, quoi. Mais ce qu'elle fait là, c'est absolument... c'est horrible. C'est horrible parce que j'ai fait l'erreur de signer un document à un moment donné pour avoir la paix. J'ai cru que... Et c'est le petit garçon qui attendait le réconfort. Donc j'ai signé ce document à ma mère. En vérité, ce document, c'était un planning. Et ce planning, je l'ai même fait signer à Alexandra, qui n'a pas voulu, mais qui m'a suivi par amour. En vérité, ce planning, je pensais qu'il serait, on va dire, planqué dans un tiroir. Pas une seconde, j'ai pensé que ce planning avait été suscité par son avocate pour finir sur le bureau du juge, pour devenir un jugement qui nous pourrit la vie depuis 2019. Donc voilà, c'est une horreur. Et quand tu vas voir les... Quand tu es convoqué à la police, on vous engueule. Il y a le jugement. À un moment donné, et dans ce fameux jugement, on nous l'a mis dans la figure à un moment donné où j'ai essayé encore une fois de comprendre ses agissements. Parce qu'à un moment donné, elle est venue à l'école de musique du Grand sans prévenir personne. Donc elle a une façon d'intervenir qui est un peu dérangeante. Donc sans prévenir personne. Donc, on a essayé de comprendre pourquoi elle avait fait ça. Parce qu'on avait eu aussi un petit clash quelques semaines avant. Alors, je précise, quand on a un clash avec ma mère, elle nous fait la gueule pendant plusieurs semaines. Je précise. Allô ?
D'accord.
Vous êtes toujours là ?
Oui, je suis toujours là, bien sûr.
Ouais, elle nous fait la gueule pendant plusieurs semaines. Et c'est son mode de fonctionnement. Et puis, même les enfants, dans ce cas-là, elle ne va pas les voir. Et d'ailleurs, dans l'enquête sociale qu'on a fait, je mélange un peu tout, hein. C'est pas évident d'expliquer.
Non, mais vous inquiétez pas, allez-y.
Ok. Dans l'enquête sociale qui a été faite par nous, elle se contredit parce qu'elle dit même que notre porte a toujours été ouverte et pourtant elle nous a quand même mis au tribunal en disant à tout le monde qu'on la prive de ses petits-enfants. Quoi. C'est complètement aberrant. Donc je reviens, à un moment donné, il y a eu un clash, donc elle nous a fait un grand silence. Elle est venue à l'école de musique voir le grand, bizarrement. Donc on va la voir, je vais la voir quand même chez elle avec ma femme pour essayer une explication correcte.
Alors Alexandra, vous êtes là.
Oui.
Ah non, mais vous n'aviez pas fini, Hervé ?
Non, si tout, j'en suis. Mathus, tu peux continuer peut-être ? Alex ?
Alexandra ? Elle était partie faire quelque chose, Alexandra. Elle était partie faire un truc.
Ça va être ça.
Oui, on sent que... Alors, maintenant que je vois un petit peu mieux les choses, on va en revenir au fait que vous avez été, selon vos dires, négligé par les pouvoirs publics, en tout cas par la police. Dans quel cadre et par qui vous avez été entendu dans tout ça ?
J'ai été entendu par les deux commissaires qui sont dans le commissariat,
Comment vous vous retrouvez face à la police dans cette histoire ?
Comment on se retrouve face à la police ?
Oui.
Ben, c'est parce qu'il y a une demande. Quand il y a une demande, ben, soit elle est traitée, soit elle n'est pas traitée. Et en l'occurrence, ces demandes à elle, il faut savoir qu'elle appelle beaucoup de fois. Elle va faire énormément d'appels sur une semaine ou sur deux semaines, à savoir si elle peut déposer une plainte ou pas. Et elle dit énormément de choses quand elle est reçue, que ce soit au téléphone ou visuellement, elle a un argumentaire. Et de cet argumentaire-là, ben, je ne sais pas comment vous expliquer, moi, parce que moi, ce n'est pas ma méthode de fonctionnement et je ne m'arrête pas à ça aujourd'hui. Ça m'a atteint.
Je me doute.
Mais voilà, c'est un argumentaire qu'elle a bien défini, qu'elle a mis dans une sorte de... Je vais prendre des images, hein, parce que moi, je fonctionne aussi par images. C'est un argumentaire qu'elle a mis dans un carré. Et dans ce carré-là, elle y met tout. Tout ce qui me concerne, moi, que ce soit... qui l'aura peut-être dérangé. Voilà. Des fragilités qui la dérangent. Donc, elle va les mettre dans ce carré-là. Et de ce carré-là, elle va le grossir
en un plus gros carré. Et elle va encore le grossir encore en un plus grand carré. Et de ce grand carré-là, eh ben, elle va vous le déballer. Et de la façon dont c'est dit, eh ben, la personne en face de vous, eh ben, comme elle ne vous connaît pas, eh ben, elle vous connaît à travers ces mots-là, elle va se dire, ah ben mince alors, il faut que je la convoque. Et c'est comme ça que ça se passe. T'es convoqué, t'es là, t'es devant, t'as une personne donc, qui t'interroge. Alors, il faut savoir que moi, je n'ai pas de casier judiciaire, donc quand vous êtes appelé comme ça au téléphone, bah, vous vous dites qu'est-ce qui se passe. Vous avez le ciel qui vous tombe sur la tête. Et puis, du coup, bon, bah, tu te retrouves devant un major de police. Hein. Et donc là, tu es obligé de répondre aux questions bah, par rapport à ce qu'on te pose comme question. Donc, tu réponds. Et donc, j'ai répondu par rapport à ça aux questions. Alors, il faut savoir que l'événement dans lequel j'ai été entendue il y a récemment, c'est des événements que mon mari a traités, parce que lui, c'est le seul conducteur de la famille. Donc, c'est lui qui entreprend de faire les démarches, d'aller emmener les enfants et de les ramener à la maison. Évidemment, puisque moi, je n'ai pas le permis et que je suis handicapée. Donc, comment dirais-je, on est à deux et on fonctionne dans notre éducation là, avec nos enfants, à deux. Et on prend surtout en compte ben, les avis de nos enfants, en l'occurrence. Et on pèse le pour et le contre. Donc, par rapport à des événements, on a pris des décisions. Et de ces décisions-là, ben, on s'est rangé derrière nos enfants. Voilà. Et de ce fait-là, ben, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? À partir de ce fait-là, on est jugé. Oui. On est jugé parce que ces faits-là, visiblement, pour la justice, eh ben, c'est pas assez... C'est pas assez, c'est pas suffisant. Et ben, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ameute un petit peu ciel et terre parce que ce qui nous arrive est quand même... Bon, je sais qu'il y a plus grave. Hein. J'en ai totalement conscience.
C'est très embêtant comme situation.
Et quand on se retrouve confronté à la justice et qu'on n'a jamais été, et qu'on s'est toujours, depuis qu'on est petite, on s'est donné une ligne de conduite, je peux vous dire que ça dégringole à château de cartes dans votre tête. Mmh. Pour ne pas dire vous rendre fou. J'emploie les mots de ma belle-mère. Et je ne suis pas devenue. J'ai préféré me tourner vers l'Église. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais partie d'une collectivité et je fais partie d'associations aussi qui apportent de la vie à ma ville que j'aime énormément et qui m'apporte un soutien énorme. Je sais que j'ai un soutien énorme de ma ville. Je vais le dire aujourd'hui, c'est Hayange. J'habite à Hayange. Nous habitons à Hayange.
Oui.
Et c'est une belle ville où il fait vraiment bon vivre, voilà, avec tout ce qu'on peut dire sur la ville d'Hayange. Eh ben, je peux vous dire qu'elle rayonne. Elle rayonne par la musique, elle rayonne par le foot, elle rayonne par sa belle paroisse dont je fais partie et que j'assure les messes tous les dimanches. Voilà, je suis la continuité du prêtre, je suis la continuité de l'assemblée qui ont ils ont... Si vous voulez, ces gens, ils viennent le matin et ils s'apprêtent. Ils viennent à l'église et ils cherchent de l'espoir. Ils cherchent des prières à leurs soucis. Alors, vous savez, on a des solutions pour les autres. On arrive à les aider, mais pour soi-même, on est mauvais conseillère. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'église apporte une part de lumière et apporte une part de lumière à ma famille. Et je ne remercierai jamais assez le Seigneur d'être venu me retrouver. Ça me fait du bien.
Bon,
ça m'aide à...
C'est déjà
à
ça.
Voilà.
La suite des événements maintenant. Allez-y, Hervé.
Voilà, je vais me permettre. Alex, elle va à l'église, effectivement, mais je pense, et c'est ça qui est bien, c'est vrai qu'elle a trouvé du réconfort, parce qu'elle chante à l'église. Donc, elle a trouvé du réconfort là-bas. Après, on est croyant ou on ne l'est pas, et puis on peut très mal aller à l'église ou bien ailleurs, à la mosquée, à la synagogue, ça n'a aucune incidence, dans le sens où elle a trouvé un lieu refuge, et ça lui a fait beaucoup de bien par rapport à notre histoire. C'est clair qu'elle s'est sentie moins isolée dans ce gros problème. Et c'est vrai que depuis un an, elle y va assidûment et puis ça lui fait du bien, quoi, tout simplement. Quoi. Mm-hmm. Et c'est vrai que parce qu'elle rencontre des gens bienveillants et c'est très important. Moi, j'y vais pas trop. C'est pas trop mon truc.
Bah, si c'est pas votre truc, faut pas vous forcer. Hein.
Voilà. Mais en même temps, quand je dis que c'est pas trop mon truc, ça me fait du bien parce que elle nous ramène ce crayonnant. Donc c'est du positif quelque part dans le négatif qu'on vit tous les jours. dans ce gâchis qu'on vit avec ma mère, quoi. Et c'est vraiment dommage parce qu'elle a 75 ans, elle va avoir 75 ans, et c'est vraiment dommage, quoi. C'est dommage parce que j'ai affaire à un mur, à quelqu'un qui n'a pas de, qui ne veut plus me parler, nous parler, et qui nous fait du mal, quoi, et qui
ouais,
se
ouais,
fait sans
fait
doute du
mal, surtout, oui.
Et qui, oui, qui nous fait du mal, et qui nous fait
alors,
du mal.
Alors,
ça
n'est pas sûr, ça, parce que, est-ce que ouais. vous pensez que votre mère a des tendances un peu, on parle souvent de manipulateurs, hommes, comme des pervers narcissiques, qui puisent un peu dans le malheur des autres, vous voyez, qui se nourrissent du malheur des autres, et
oui.
qui sont prêtes à sacrifier même des enfants hein, dans la balance. Est-ce qu'elle a des tendances comme ça, votre maman ?
C'est le fameux mot à la mode qu'on voit dans tous les réseaux sociaux, qui est à la mode depuis longtemps, pervers narcissique. Je me suis effectivement renseigné sur ce mot-là. J'ai effectivement, depuis des années, je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions, énormément de questions. Je vais vous dire simplement quelque chose, je l'ai dit avant. Son fils, à ma mère, a dit qu'il allait faire une grève de la faim sur le réseau social.
Mmh.
À votre avis, Olivier, quand un fils dit à sa mère qu'il va faire une grève de la faim, comment elle réagit normalement ? Je vous pose la question. Je vous pose la question par une question.
Normalement, elle s'inquiète.
Parce que, voilà, vous m'avez posé une question, j'ose pas vous répondre franchement, mais je pense que vous allez deviner ce que je pense. Et si vous m'avez posé la question, c'est peut-être que c'est ça. Est-ce que c'est ça ? Parce que, voilà, j'ai dit que j'allais faire une grève de la faim, j'ai fait des appels au secours. J'ai, au-delà de la justice, parce que la justice, malheureusement, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion, il n'y a que des faits, des actes, il n'y a que des événements dans la justice, mais entre ces faits et ces actes, il se passe plein de choses. Il y a les émotions qui font que ça se passe ou ça ne se passe pas. Effectivement, j'attends quelque chose de ma mère et elle ne l'a pas fait. Et je pense que tous les gens qui ont vu ce que j'ai fait sur le réseau social ont compris qu'elle n'a pas répondu normalement et qu'une mère normalement qui aime son enfant, elle ne va pas lui dire tu dois te reposer quelques jours seule. Elle répond autre chose. Donc oui, je pense qu'il y a quelque chose dans cet acabit. Il y a une sorte de plaisir à voir souffrir parce que je ne conçois pas autre chose dans le sens où j'en ai fait des appels au secours, je n'avais pas idée combien je lui en ai envoyé.
Oui, ah oui, oui.
Combien j'en ai fait. Et malheureusement, elle emmène avec elle ses amis, ses relations. Il y a un petit réseau, voilà, et qui... D'ailleurs, elle l'avait dit elle-même, d'ailleurs, il y a quelques années, vous pouvez compter sur moi pour que je vous isole, pour vous isoler.
Ah oui, elle nous l'avait dit ça ?
Oui, elle nous l'avait dit ça. Elle nous l'avait dit. Et j'ai fait une main courante le soir-là, parce que c'était au début de notre affaire, on va dire. Hein. Donc, elle nous avait sorti ça. Et pourtant, le soir-là, j'avais encore une fois tout fait pour réunir tout le monde, pour essayer d'arranger les choses. Et voilà ce qui s'était passé. C'est un des nombreux événements qui se bousculent dans ma tête, que j'arrive pas à retranscrire et ressortir comme ça. Mais il y en a énormément, il n'y a que ça. Donc effectivement, il y a plein de gens qui ont prononcé ce mot-là. Il y a des gens qui l'ont dit sur ce réseau social, dans les commentaires, qui ont analysé la situation par rapport à ses réponses, ou ses non-réponses plutôt à elle, parce qu'elle est beaucoup dans la non-réponse. Donc oui, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, parce que je ne vois pas autre chose. Parce que comment peut-on faire du mal ? Comment peut-on faire du mal à... La mère
de
ses
petits-enfants. Oui.
Comment peut... Surtout que Alex est quelqu'un de fragile. Elle a des problèmes de gestion d'émotions. D'accord ? On va, elle comme moi, voir un psychiatre parce qu'on nous a traités de fous, parce qu'on veut avoir des réponses à nos questions. Donc, elle a effectivement un problème de gestion des émotions. En plus, la pauvre, elle est dyslexique, elle est dysorthographique, elle a tous les 10 du monde. Ça n'empêche pas d'être adorable, intelligente. Mais cette fragilité-là, ma mère n'en a jamais à mépriser tout ça. C'est-à-dire que la boulimie anorexie, elle l'a méprisée. tout ce qui est... Elle méprise. Je ne sais pas comment expliquer. C'est que du mépris. Les choses qui sont... le handicap, elle, visiblement... Elle ne s'est jamais arrêtée. Elle n'a jamais essayé de d'aider Alex. Elle n'a jamais essayé de lui apprendre des recettes de cuisine, par exemple. Elle n'a jamais essayé de créer des liens
elle
avec
elle.
Elle
n'a jamais pu la blairer. Non, mais ça sent ça.
Voilà, soyez... Ouais, voilà, je pense que vous
appelons
avez les mots.
Appelons un chat, en fait.
Voilà, Olivier, non. Vous avez des mots très justes. Non seulement elle n'a jamais pu la blairer, mais en plus, j'ai reçu un coup de téléphone hier d'un gars d'une relation que j'ai connue dans le passé, qui, grâce à ce que j'ai mis justement sur le réseau social, m'a dit qu'effectivement, elle cassait du sucre sur Alex, elle faisait que ça.
Dès
quoi.
Le début. Dès le début. On est dans un grand classique, hein, Hervé.
J'ai besoin de l'entendre, j'ai besoin qu'on me rassure là-dessus m'en sortir. Mais moi, j'ose pas me le dire.
Il faut pourtant bien lire dans la chronologie de ce qui s'est passé, du jour où vous avez été avec Alex, dès le début, votre mère a voulu flinguer Alex et a débiner Alex. Donc,
elle a tout.
Donc, les enfants, c'est comme je vous disais, c'est pour ça que je vous posais cette question. Les enfants, c'est une juste continuité parce que elle sait qu'elle peut se servir de ce levier-là pour vous faire du mal et pour faire du mal à Alex.
Et le pire, c'est qu'elle dit que c'est nous qui faisons du chantage aux enfants. C'est une horreur. On vit une horreur.
Oui.
Toutes les choses qu'elle fait, elle nous les envoie à nous. Elle dit sur ce réseau social, justement, et Alex a fait la plainte contre elle pour se protéger, que Alex nous manipule. Mais c'est une horreur. Mais c'est impossible, c'est incroyable, mais c'est que ça, tout ce qu'elle dit, c'est elle, c'est incroyable.
Oui, oui, et ça c'est le propre, vous savez, c'est le propre des pervers narcissiques, même si c'est un mot à la mode, malheureusement, je dis bien malheureusement parce que il est vrai qu'aujourd'hui... ça va être un peu dur, hein, ce que je vais dire, mais...
Allez-y.
À chaque fois qu'une femme se fait larguer par un homme, il y a beaucoup de femmes qui confondent tout, et c'est un pervers narcissique.
Voilà, c'est pour ça qu'on n'ose pas le dire.
Alors qu'un pervers narcissique, c'est quelqu'un vraiment de très identifiable. C'est quelqu'un qui se nourrit de l'autre ou des autres, et surtout celles et ceux qu'il va détruire. Et souvent, quand ils vous écrivent, quand ils vous parlent, c'est d'eux qu'ils parlent.
C'est ça, c'est exactement ça.
C'est d'eux qu'ils parlent. C'est psychanalytiquement, c'est quelque chose qui a été évalué et souvent émis par des psychiatres et des gens qui font des études par rapport à cela. Souvent, quand ils vous parlent et qu'ils vous critiquent, en fait, ils parlent, c'est pratiquement d'eux qu'ils parlent. Vous voyez ?
J'ai ressenti, quand j'étais petit, elle me disait à chaque fois, tu n'écoutes rien, tu ne sais rien, tu ne t'intéresses à rien, qu'elle me disait. Et pourtant, j'étais passionné. Quand j'étais gamin, à 7 ans, je voulais faire John Travolta. Je chantais, je dansais. Et elle m'a toujours dit que je m'intéressais à rien. Elle m'a toujours remis dans la figure ce qu'elle était, elle.
Oui.
Et aujourd'hui, je suis cassé en deux. J'ai comme une sorte de force, on va dire, d'un côté, et je suis détruit de l'autre. Je ne sais pas comment vous dire.
Mais n'oubliez pas que vous avez vos enfants et que c'est
mais
là le plus important.
Mais je suis fort pour eux. Hein, j'arrête pas. Vous savez, Olivier, j'ai une chance incroyable. Nous avons une chance incroyable dans cette pourriture qu'elle nous fait subir. Les gamins, je dis, c'est que des câlins, de la tendresse, c'est que des rires, c'est que ça. J'avais jusqu'à l'âge de 42 ans, en vérité. J'étais papa à 42 ans, et 42 ans, je n'ai jamais eu ce bonheur. Et je l'ai eu, et je l'ai tous les jours. Mais elle veut me le bouffer, vous savez, vous l'avez dit, elle ne veut pas de ça. C'est pas possible de vouloir ça. C'est pas possible d'agir de cette manière-là, d'utiliser. Et c'est là que j'en reviens, parce que je pense que vous m'avez beaucoup aidé, et on va essayer d'aider un peu les autres, parce que le 371.4, cette fameuse loi, heureusement qu'elle existe, mais il y a le problème, c'est qu'il y a des drames, il y a des papis, il y a des mamies, Y a des papas, il y a des mamans qui ne peuvent plus voir leurs enfants pour X ou Y raison et qui souffrent. Donc la loi là, heureusement qu'elle est là pour pouvoir imposer une relation. On est bien d'accord, heureusement qu'elle existe. Mais dans notre cas, ces gens-là savent utiliser la loi. Et malheureusement, les très bons avocats vont les aider à utiliser cette loi. C'est ce qui se passe dans notre histoire. Et c'est dramatique parce qu'il manque quelque chose dans cette société. Il manque ce côté psychologique. Il manque énormément de liens entre les événements. On ne peut pas laisser faire ça parce que ce que nous, on vit aujourd'hui, il y a d'autres gens qui doivent le vivre et qui vont le vivre. C'est une horreur. Et nous, je vous le dis, Olivier, depuis des années, comme je dis, j'ai un côté fort et j'ai un côté détruit, je le sais. Je suis un cagneux, comme on dit. Je suis boiteux, d'ailleurs. Voilà comment l'expliquer, mais j'ai un côté fort. Nos enfants, on fait tout pour qu'ils ne soient pas touchés par ça. Mmh. Mais elle met une telle pression qu'elle nous accuse, vous savez qu'elle nous accusait de maltraitance parce que on parle de ça entre parenthèses. Elle est en train de dire qu'on déblatère sur elle à la maison. Donc, c'est elle qui crée l'événement. Je n'ai même pas de vous expliquer, je pense que vous avez tout analysé. Vous m'avez fait du bien. Voilà. Voilà. Donc, comme je disais, cette loi 371.4, il faut absolument que quelqu'un, quelqu'une, les députés écoutent. C'est vraiment, il faut refaire, il faut essayer d'aller plus loin parce qu'il y a malheureusement des gens malveillants qui profitent de ça. Et il faut les empêcher parce que je sais qu'on va s'en sortir, on doit s'en sortir. D'ailleurs, le fait de vous parler ce soir, ça va nous aider. Ça va peut-être aider d'autres personnes. Il faut que ça fasse quelque chose. Il faut sortir de ça. Il faut qu'ils repassent cette loi et qu'ils aillent un peu plus loin parce qu'il y a beaucoup d'injustice et de malheur.
Vous savez, je ne pense pas que c'est la loi qui dysfonctionne.
Je ne sais pas comment dire.
Mais je pense tout simplement que nous sommes encore face à une situation de celle de la justice en France. Je vais vous dire, c'est un juge qui me l'a dit il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, aujourd'hui, Olivier, nous n'avons plus le temps et les moyens, donc, de juger en notre âme et conscience. On juge toujours, parce que c'est comme ça, il nous reste ça. Mais juger dans de bonnes conditions. Nous n'avons pas le temps. Parce que nous n'avons pas les moyens. Et ça veut dire que si vous avez en face de vous votre mère, qui manie bien, comme le disait Alexandra, la langue française, qui présente bien, qui a tout un tas de qualités comme ça, elle peut embrouiller un juge, elle peut embrouiller les policiers. Et puis, au bout du compte, c'est vous qui en fait les frais. Vous ne manquerez pas, parce qu'on va être obligé de conclure, malheureusement, mais vous ne manquerez pas de nous tenir au courant de tout ça, l'évolution de la situation.
Juste 3 secondes, effectivement, vous venez de dire ça, je rebondis dessus. Si le juge avait eu le temps de lire l'enquête sociale, à défaut des conclusions, il n'a lu que les conclusions, je le sais, je le sens. Vous venez de le dire à l'instant, quelque part. Mmh. Vous comprenez ce que je veux dire par là? S'il avait lu entièrement l'enquête sociale, il aurait vu les contradictions incroyables et l'incohérence de ma mère. Sauf qu'il a, effectivement, il a fait comme ses collègues, il a fait parce qu'il n'avait pas le temps, il a simplement... Ça, je le suppose, et je pense que j'ai raison. J'ai réfléchi là-dessus. Il n'a lu que des conclusions. Et effectivement, s'il avait eu plus le temps, je pense que les choses auraient été différentes. Et que c'est clair et net. C'est évident. Et ça manque, il manque de temps. Voilà.
Il manque de temps, il manque malheureusement de temps. L'argent, c'est du temps, donc il y a moins de greffiers, il y a moins de temps pour juger les affaires. Ils ont de plus en plus de dossiers qui s'empilent les uns sur les autres. Et malheureusement, qui va en faire les frais? Eh bien, ce sont les contribuables, c'est-à-dire les gens qui sont à un moment... amené à être présenté devant la justice. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir accordé de votre temps, d'avoir témoigné ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et vraiment, je ne vous le dis pas en l'air, vous nous tiendrez au courant, d'accord ?
Oui,
Merci beaucoup, Olivier.
Je vous en prie. Et puis pensez bien à une chose, c'est que le plus grand bien que vous ayez, c'est le grand trésor que vous ayez, c'est que vos enfants soient en bonne santé, que vous le soyez aussi. Et tant que ça roule, pensez bien à ça et ça vous mettra la force. D'accord ?
Je peux me permettre quelque chose ?
On n'a plus de temps, malheureusement. Allez-y, vite fait.
Un gros bisou sur le front. J'avais envie de vous faire un gros bisou sur le front.
Voilà, bon, bah ça va, c'est vite fait et ça fait du bien.
Voilà.
On vous embrasse tous les deux. Au revoir.